Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, puisque toute société est une amitié, toute amitié est une société, j'espère qu'à force de le répéter, vous le retiendrez, les amis de Jésus-Christ, l'Église donc, les amis de Jésus-Christ, sont amis entre eux, et cette amitié doit être en œuvre, et pas seulement en parole. Ce que je vais vous dire aujourd'hui sur la charité dans l'Église, et particulièrement la charité fraternelle, découle directement des sermons précédents. L'Église, c'est la société des amis de Jésus-Christ. Notre Seigneur, en Saint Jean, parle beaucoup de cette charité, et cette charité avec Dieu, cette charité fraternelle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et plus loin, au chapitre 15, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. C'est cela qui fonde l'Église, c'est cela qui crée l'Église. Et continuons. Premier épître de Saint Jean. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais par les actes et en vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et un peu plus loin, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son prochain, qu'il voit, est un menteur. Et cet amour fraternel est le premier signe auquel on reconnaissait les premiers chrétiens. Voyez comme ils s'aiment, dit Tertullien, un auteur chrétien du IIe siècle. Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. C'est ce que les non-chrétiens, les païens, disaient des disciples de Jésus. Quels sont les caractères de cet amour fraternel? Tout d'abord, il découle de l'amour du Christ. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Deuxièmement, il découle de l'amour du Christ sur la croix. Sur la croix, cet amour donne naissance à l'Église, non pas comme l'eau donne naissance à la plante, mais parce que, par la croix, la charité est restaurée dans le cœur des hommes. Elle devient universelle, visible. L'amour de Dieu a été brisé par le péché, tandis que par la croix, il a été restauré pour former la nouvelle société. Il s'agit désormais d'aimer son prochain, comme Jésus-Christ nous a aimés sur la croix. Ceci est tellement important que je crois que je vous en ferai un sermon spécial. Parce que la croix, la messe, l'Eucharistie, la charité nourrie par l'Eucharistie, le règne de Jésus par la croix, c'est tout ça, c'est le grand enseignement de Mgr Lefèvre. Vous voyez, on dit que c'est la croix qui donne naissance à l'Église, mais faites bien attention, il y a deux manières de comprendre l'expression. La première, que la croix donnerait naissance à l'Église, comme l'eau donnerait naissance à la plante, à quelque chose d'autre. Ce sont tous ceux qui voient dans l'Église une institution, et puis cette institution, les diocèses, le pape, les évêques, tout cela, est nourrie par la charité qui vient de la croix. Et cette interprétation est mauvaise, elle est fausse. Et vous avez une autre interprétation qui, elle, est la bonne, à savoir que la croix donne naissance à l'Église comme la source donne naissance au fleuve. Il n'y a aucune différence entre la source et le fleuve, si ce n'est que le fleuve, c'est la source qui se prolonge et qui s'étend au milieu des hommes. Faisons bien attention, si nous avons une mauvaise définition de l'Église, nous interpréterons toutes les phrases de l'Écriture sainte, tout l'enseignement du catéchisme et de la théologie, selon la mauvaise idées que nous avons et nous fausserons tout. Au contraire, si nous écoutons l'enseignement de l'Évangile, du catéchisme, de la théologie sans aucune idée préconçue, nous nous rendrons compte que l'Église est une réalité visible, certes, mais spirituelle. Que le pape, les évêques sont au service de l'Église, mais qu'ils ne sont pas l'Église. Comme les prêtres sont absolument nécessaires et indispensables à l'Église pour prolonger le sacrifice de la croix dans le sacrifice de la messe, le sacrifice eucharistique, mais cela ne fait pas pour autant que les prêtres sont l'Église. Si on définit bien l'Église, il est facile après cela de définir le prêtre et la fonction qu'il tient dans l'Église. Si, au contraire, on commence en définissant le prêtre, l'évêque, le pape, en disant qu'ils sont l'Église, alors à ce moment-là, tout le reste est faussé, y compris la charité, y compris la foi. Je ne répète pas ce que je vous ai déjà dit en vous lisant le catéchisme du Concile de Trente. Cela va être plus clair avec la suite. Cet amour fraternel, donc il découle de l'amour du Christ. Deuxièmement, il découle de l'amour du Christ en croix. Troisièmement, il est une manifestation de la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié. Et c'est cela qui unit tous les chrétiens pour en faire une société. C'est cela qui fait l'union entre la charité et la foi. L'objet de la charité, l'objet de l'amitié dans l'Église, c'est la manifestation de la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié. Tous les chrétiens se retrouvent au pied de la croix dans une amitié qui les soude. Et cette présence au pied de la croix, cette amitié auprès de la croix, autour de la Sainte Vierge, autour de Saint Jean, manifeste leur foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié. Et voilà pourquoi la foi et la charité sont absolument inséparables. Il ne peut pas y avoir de charité sans la foi. Et il ne peut pas y avoir de foi sans la charité, y compris la charité fraternelle. C'est cela qui rend l'Église visible. Et selon le témoignage de Tertullien que je vous ai cité tout à l'heure, voyez comme il s'aime, la visibilité se réalise premièrement par la charité. Voyez comme il s'aime. Et ensuite, de la charité, la foi devient visible. La charité rend la foi visible. C'est à cela que l'on connaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour qui vous unit. Et c'est cela, l'Église visible. Là aussi, c'est très important parce que lorsque Mgr Lefebvre a été condamné après les sacres, Don Gérard, le père abbé du Barou, a dit qu'il fallait rester dans l'Église visible. Mgr Felet a dit pratiquement la même chose, que l'Église, c'est ce qui était visible. Mgr Lefebvre a répondu à cela, bien entendu. Cette visibilité de l'Église, si on a une mauvaise définition, c'est le pape, les évêques et la hiérarchie qui sont visibles. Si on a une bonne définition, c'est la foi et la charité qui sont visibles. Dans le premier cas, celui qui n'est pas avec le pape a l'impression d'être hors de l'Église, même s'il a la foi et la charité. Dans le deuxième cas, celui qui a la foi et la charité sait qu'il est dans l'Église, il appartient à l'Église, même si le pape, lui, se sépare de l'Église en perdant ou en détruisant la foi et la charité. Dans le premier cas, on tremble de ne pas être avec le pape. Dans le deuxième cas, on est parfaitement en paix et on tremble au contraire pour le pape qui n'est pas dans l'Église. La visibilité de l'Église, c'est la visibilité de la foi et de la charité. La caractéristique suivante de cet amour fraternel, c'est qu'il est fidèle au commandement de Dieu. Jésus-Christ le répète plusieurs fois, Saint Jean également le répète, quand il parle de la charité, il parle de la fidélité au commandement de Dieu. Ce qui est logique. Je vous ai dit en parlant des actes de la charité qu'il y avait la bienveillance, la bienfaisance, et puis, surtout, un seul vouloir, c'est-à-dire vouloir les mêmes choses, aimer les mêmes choses, détester les mêmes choses, refuser les mêmes choses. Cet amour de charité se réalise évidemment dans l'observance des commandements, mais ce commandement étant pris par l'amour, finalement, le seul vrai commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et notre Seigneur dit, en cela se tient toute la loi et les prophètes. Pour nous aider, l'Église reprend le décalogue avec les 8 commandements qui suivent les premiers, les 7 commandements qui suivent les premiers. Mais ce n'est qu'un développement des 2 premiers, aimer Dieu et aimer son prochain. La caractéristique suivante de cet amour, il va jusqu'à donner sa vie pour son prochain, à l'exemple du Christ. Vie donnée par la consécration au prochain, par exemple les religieuses hospitalières, les enseignants. J'ai une reconnaissance éternelle pour nos maîtresses de primaire, notamment une d'entre elles qui était célibataire, qui avait consacré sa vie à ses élèves chrétiens, une célibataire chrétienne qui avait consacré sa vie à faire des petits chrétiens, et qui est morte plus ou moins dans l'abandon. Mais nous ne nous en rendions pas compte à l'époque, c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Et puis aussi, vie donnée en mourant pour le bien du prochain. Cet amour s'étend à ceux qui ne sont pas encore dans cet amour, pour les rendre nos frères. Voilà pourquoi l'Église est missionnaire. Et c'est ce qui, non seulement légitime, mais nous donne l'obligation de parler haut et clair lorsque la hiérarchie ne le fait pas. Parce que l'Église doit parler, l'Église doit aller vers le prochain, l'Église doit nourrir le prochain. La hiérarchie le fait au nom de l'Église. Si la hiérarchie ne le fait pas, l'Église doit le faire par d'autres canaux. Ce n'est pas la hiérarchie qui doit prêcher, c'est l'Église qui doit prêcher. Et la hiérarchie a pour fonction de faire cela au nom de l'Église. C'est cela qui légitime qu'un Mgr Lefebvre, un Mgr Vigano, qui n'ont plus de poste officiel dans l'Église et qui normalement ne devraient donc plus s'exprimer, le fassent quand même puisque leurs confrères ne le font pas. C'est ce qui légitime que j'enregistre ces sermons pour les mettre sur mon site afin que quiconque le veut puisse les écouter, et je vous encourage, mes bien chers frères, à les diffuser autour de vous. Il n'y a pas de copyright, diffusez-les intelligemment, par n'importe qui, et suivez ceux auxquels vous les transmettez. Les transmettez surtout pas indistinctement en les envoyant à des dizaines et des dizaines de personnes. Ça ne peut faire que du mal. Et c'est comme ça que vous me ferez condamner par la justice civile qui me reprochera de ne pas être dans l'esprit du mondialisme. Donc, communiquez ces sermons un par un à des personnes que vous suivez, dont vous vous occupez. Et cela me fait tout simplement ma transition pour la dernière caractéristique de l'amour fraternel dans l'Église, la charité fraternelle. Cette manifestation de cet amour se fait dans les œuvres de miséricorde, les corporelles qui sont les plus visibles, parce qu'il faut aimer en actes et pas seulement en paroles, et puis les spirituels qui sont les plus essentiels. Et parmi les œuvres de miséricorde spirituelle, les plus essentielles, celles qui sont vraiment le cœur de l'Église, c'est enseigner la vérité, donner des bons conseils, corriger les pécheurs, prier pour nos amis et nos ennemis. Vous voyez, mes bien chers frères, à chaque fois qu'il faut illustrer par un dessin ou une photo, peu importe, un article sur l'Église ou un livre sur l'Église, on met soit une photo du pape, soit une photo du Vatican, c'est-à-dire du lieu de résidence du pape. Pourquoi on ne mettrait pas un dessin ou une photo d'une mission avec la chapelle, avec l'école, avec le dispensaire où se trouvent des religieuses? On peut vraiment dire que là où on a une chapelle avec la messe, donc la croix, avec la messe qui nourrit la charité et qui nourrit les œuvres de miséricorde, tant corporelles à l'hôpital que spirituelles dans l'école, eh bien là, on a l'Église. Et voilà pourquoi Monseigneur Lefebvre disait « Nous sommes l'Église ». À cette phrase, il y a une mauvaise interprétation. C'est celle qui consiste à exclure tous ceux qui ne sont pas de notre groupe. Et ça n'est évidemment pas ce que Monseigneur Lefebvre voulait nous faire comprendre. Et il y a une bonne interprétation, c'est que face à l'Église conciliaire qui perd la foi et la charité, ceux qui ont la foi et la charité sont l'Église. Alors il y a nous, j'espère bien que nous avons la foi et la charité. Il y a vous qui m'écoutez, j'espère bien que vous avez la foi et la charité. Il y a ceux que nous allons attirer à la foi et à la charité. Et puis il y a, en dehors de notre groupe, des gens qui, grâce à l'action du Saint-Esprit, malgré tout le mal que la hiérarchie moderniste peut faire, grâce à l'action du Saint-Esprit, vivent dans la foi, vivent dans la charité et sont donc l'Église. Bien sûr, il y en a beaucoup parmi eux qui sont blessés par l'Église moderne. Il y a notamment des prêtres parmi eux qui sont blessés, qui n'ont peut-être pas toute la bonne doctrine, qui n'ont pas encore tout compris. Il ne faut pas les exclure comme s'ils n'étaient pas l'Église. Il faut prendre des précautions, ça c'est vrai. Nous ne pouvons pas encore leur confier nos fidèles parce qu'ils sont blessés, ils ne sauraient pas guérir nos fidèles. Cependant, nous ne pouvons pas les exclure. Parce que justement, ils ont la foi et la charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est à cela qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.